Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanu et bienvenue dans cette 44e émission.
Édition 2023.
Comme signalé la dernière fois, après les combats de Waitahu et la grande fête Koika racontée par William Leblanc, nous reprenons aujourd'hui la suite chronologique de l'histoire de la Terre des Hommes avec l'année 1843. En janvier, un navire d'approvisionnement apporte vivres et bétail à Tahuata. On interdit aux baleiniers étrangers d'échanger de la poudre, des balles et des munitions avec les Enata. Les déserteurs étrangers, livrés par les Enata contre récompense, sont capturés et internés sur le navire stationnaire pour être remis à leurs éventuelles autorités de passage.
En ce début d'année 1843, et particulièrement à l'intention de ceux qui parmi vous s'intéressent aux détails historiques, il est nécessaire de faire le point de la situation militaire aux Marquises. Le 25 août 1842, l'amiral Abel Aubert du Petit Thouars avait quitté les Marquises sur la Reine Blanche. Il n'y reviendra que le 14 août 1843. Et l'on sait qu'une fois arrivé à Tahiti en septembre 1842, il avait fait son possible pour imposer le protectorat français à la Reine Pomare. Il était ensuite parti au Chili et au Pérou. À son départ des Marquises, pour chacun des deux groupes nord-ouest et sud-est de l'archipel, il avait créé une station navale et un établissement militaire assimilé à un bâtiment de guerre de la division navale du Pacifique qu'il commandait et qui était assujetti au règlement administratif, disciplinaire et judiciaire en vigueur dans la marine. Chaque groupe était donc dirigé par deux entités distinctes, une à terre sous les ordres d'un commandant supérieur et l'autre en mer avec pour siège un navire stationnaire et son officier commandant. Dans le groupe nord-ouest, le 2 juin 1842, du Petit Thouars avait confié le commandant terrestre à un de ses officiers de la Reine Blanche, le capitaine de corvette Jean-Benoît Amédée Collet, qui résidera au fort Collet, qui porte le nom de son père, amiral ou contre-amiral, et qui se dressera bientôt sur la colline Tuhiva, dominant la baie de Taiohae. Il sera remplacé par le chef de bataillon d'artillerie de marine Favreau le 18 septembre 1843. La station navale du Nord-Est est confiée au capitaine de corvette Sylvain-François Vrignot, commandant la corvette La Boussole. Dans le groupe Sud-Est, dès le 2 mai 1842, le commandant particulier est le capitaine de corvette Édouard Michel Allais, secondé par le lieutenant de vaisseau Philippe-Alexandre Amable Lafond de la Débat. Sur mer, le lieutenant de vaisseau Laurent-Michel-Joseph-Julien Laferrière commande la gabarre, le bucéphale, bâtiment de transport. Le 17 septembre, à Tahuata, dès le premier jour de la révolte des Marquisiens, ces deux officiers furent tués. Et par voie de hiérarchie, le commandement sur terre revint au troisième officier sur les rangs, le capitaine Napoléon Claude Cunier, commandant la 16e compagnie d'infanterie de marine. Il sera remplacé le 15 octobre 1843 par le lieutenant de vaisseau Jean-Baptiste Eugène Brunet, arrivé à bord de la corvette Uranie, commandée par le capitaine de vaisseau Armand-Joseph Brua, qui avait été nommé gouverneur des îles Marquises le 8 janvier 1843, puis gouverneur des établissements français de l'Océanie
et commissaire du roi auprès de la reine Pomare,
le 17 avril 1843, date à laquelle cette appellation d'établissement français de l'Océanie apparaît pour la première fois dans un document officiel français qui figurera dans l'intitulé de la loi de finances présentée à la Chambre des députés le 24 avril 1843 par l'amiral Albert Roussin, ministre de la Marine et des Colonies.
Le 28, il reçoit sa lettre de mission du ministre de la Marine et des Colonies. On lui précise qu'aux Marquises, il doit faire en sorte d'obtenir la collaboration complète des missionnaires des Sacré-Cœur de Jésus et Marie de la rue Picpus à Paris, avec lesquels une convention a été passée et qui sont rémunérés par le ministère, et d'où proviennent tous ceux qui sont déjà sur place depuis 1838. En juin, le gouvernement français décide de ne maintenir qu'un seul poste militaire à Taiohae, en raison de l'excellent abri fourni par la baie. Le quartier de Hakapehi prend le nom de Saumurville, d'après le nom de la ville de Saumur, ville natale de du Petit Thouars, qui en fournit à l'administration un plan complet avec des noms de rues, casernes, églises, jardins des plantes et champs de Mars. Mais rien de cela ne sera réalisé. Par contre, la colline Touhiva, qui porte désormais le nom de Fort Colette, est bien munie de la maison du gouverneur, du pavillon des officiers, d'un magasin général, d'une forge, de deux fours à pain, d'un four à briques et d'un four à chaux, seul vestige encore visible de cette époque sur la pente est de la colline, au-dessus des terrains de tennis comme on l'a déjà dit. On démontera tout ce qui pourra l'être en 1849 lorsque Taiohae sera abandonné par la marine pour le transporter à Tahiti.
Il faut préciser ici que la résidence du gouverneur sera ensuite déplacée en contrebas sur la petite plaine de Hakapehi, où elle est désormais résidence de l'administrateur. Elle sera terminée en 1844. De même que le grand bâtiment appelé Magasin Général de la Marine, aujourd'hui Centre de Détention Prison de Nukuhiva, qui sera lui aussi terminé en 1844.
En décembre 1844, à partir de l'embouchure de la rivière Vaitu qui se jette dans la baie, face à la Banque Socredo de nos jours, l'officier de marine et peintre René Gilotin réalisera un dessin magnifique de la colline Touhiva, conforme à la description que nous venons d'entendre.
Le 14 août, l'amiral du Petit Thouars revient aux Marquises et la
garnison de Tahuata est en partie renouvelée. L'approvisionnement en vivres et en bétail est régulier.
Les 5 et 6 octobre 1843, Herman Melville fait une très courte escale à Taiohae sur le United States qui prend ensuite la direction de Tahiti.
Le 6 novembre à Tahiti, l'amiral du Petit Thouars déclare l'annexion du royaume Pomare. La reine Pomare s'exile aux îles sous le vent. Au cours de l'année, 7 prêtres et frères catholiques arrivent aux Marquises. Au cours de l'année aussi, Thomas Clifton Lawson et son frère William Lawson arrivent à Ouahuka. Ils vivront pendant 20 ans à Vaipae, où ils créeront l'entreprise Firm of Tom and Jack, la boîte de Tom et Jack, dont l'activité est tournée vers le commerce et l'approvisionnement des baleiniers. Vers la fin de l'année, William Leblanc, à la page 102 de son livre, raconte comment un Portugais descendu d'un baleinier américain avec deux amis pour collecter des feuilles de palmier latanier afin de fabriquer des chapeaux s'est fait tuer et manger par les Taipis de Vaihi. Au cours de l'année, à Wapo, une baleine s'échoue à Akahao. La grande prêtresse, mère de Heato, déclare que c'est l'âme errante d'un Tau'a nécessitant le sacrifice de 8 victimes humaines. Nous avons déjà parlé de cet épisode lors des émissions traitant des sacrifices humains. Heato veut les remplacer par des tortues, mais finalement, on plante 8 bananiers sur la plage, sur lesquels on attache et on met à mort 8 membres d'une tribu voisine. Avant de passer à 1844, il me faut ici revenir sur un épisode tragique resté sans explication jusqu'à ce que, en janvier 2017, le journaliste-écrivain Daniel Pardon rédige un article explosif sur le sujet. En mars 1843, après avoir quitté Saint-Malo en décembre 1842, le vicaire apostolique de Polynésie orientale, évêque de Nilopolis, Mgr Rouchouz et 24 missionnaires disparaissent en mer sur le Marie-Joseph au passage du Cap Horn en provenance d'Europe. Ils n'arriveront donc jamais aux Marquises. Mais selon Daniel Pardon, il existe des preuves tangibles que le navire ait fait halte à l'île de Pâques, Rapa Nui, où tous les étrangers à bord furent massacrés et consommés par les indigènes sur la plage d'Anakena. Comment cette sombre histoire ne sort-elle de l'ombre qu'aujourd'hui ? Tout simplement, pense Daniel Pardon, qu'ayant eu vent du massacre et ne voulant pas voir les Tahitiens catholiques aller se venger des Rapa Nui, l'évêque de l'époque, le célèbre Tepano Josen, a préféré garder le silence. Désormais au courant de ce sanglant épisode, que fera l'Église catholique pour laquelle ces malheureux religieux devraient être déclarés martyrs ? Affaire à suivre donc, d'autant que l'enquête de Daniel Pardon n'est pas encore terminée. En 1844, à Tahiti, débute la guerre franco-tahitienne qui se terminera en décembre 1846. En juillet, William Leblanc signale le retour de la boussole à Taiohae, qu'il quitte ce même mois. Le 29 juillet, après plusieurs jours de bataille, les Hapa'a de Nukuhiva sont complètement battus par les Teihi alliés aux Taiohae. En août, à Tahuata, le docteur Comeras, médecin de la marine à bord de la boussole, déclare qu'après une saison des pluies qui avait duré 6 mois, la population avait été décimée par une épidémie de grippe qui n'avait pas laissé plus de 60 guerriers valides. C'était peut-être un épisode El Niño. En plus de la disparition de Mgr Rouchouz en 1843, L'année 1844 est marquée par la mort de trois chefs marquisiens, à savoir Iyotete à Tahuata, le grand chef de Huapoheato, et Niehitu, oncle maternel et longtemps régent de Temuana à Nukuhiva. Le 13 octobre, la mort de l'évêque Rushuz étant encore incertaine, le père Baudichon est nommé coadjuteur du vicaire apostolique de l'Océanie orientale et évêque titulaire de Basilinopolis, avec siège aux îles Marquises. Mais il ne la prendra que le 29 mars de l'année suivante par un courrier du père Doumer venu de Valparaiso au Chili sur le navire La Somme. En septembre, c'est la mort de Iyotete à Tahuata. D'autres sources disent que c'était le 26 avril de l'année d'avant. En tout cas, c'est une fin triste et sans avenir pour l'âme du chef. Malgré le respect des traditions, des pleureuses et de l'embaumement, il n'y avait pas de Taua pour le déclarer étour. Le 27 octobre, après avoir demandé le baptême, Mahe Ono, chef de Tahuata, devient catéchumène. Il encourage ses compatriotes à rejeter les tapus. Le 10 novembre, à Hanatekua, à Hivaoa, le navire américain Panama s'échoue et est pillé après que l'équipage eut été secouru par les troupes françaises venues de Waitahu, qui n'ont pas pu mettre le pied à terre de peur d'être attaqués par les Enata. Début décembre, le lieutenant de vaisseau René Gilotin, dont nous avons déjà parlé, peint la baie de Taiohae ainsi que les portraits de Temuana,
Tahiaoko,
sa femme, Veketu, le Taua grand prêtre, et Pakoko, chef de Hikoei, Pakiyu et Hava, qui sera fusillé en mars suivant. Mais ça, c'est une autre histoire dont nous parlerons la prochaine fois. Le 25 décembre à Waitahu, on profite de la célébration de Noël pour organiser le baptême et le mariage religieux de Mahe Ono et de son épouse, qui prennent respectivement les noms de Grégoire et Catherine. Le commandant de la place et son épouse sont leurs parrains et témoins. Néanmoins, le Hakaiki ne tarde pas à retrouver les coutumes païennes. 6 mois après, en août 1845, il consommera même la chair d'un enfant de 3 ans, recommandant à ses compatriotes de l'imiter, et son épouse reprendra les danses et les chantapes.
Certains généalogistes disent que cette épouse se nommait Tahia Tohetika et qu'elle était fille de Iotete. Fin décembre 1844, ou bien tout au début de 1845, la date n'est pas certaine.
À la mort du roi Heato de Huapo, les Taua avaient besoin de 6 victimes non tatouées pour le sacrifice humain. Menacée de représailles militaires en cas de violence avérée, la nouvelle reine veuve, Tahiapeutou, sœur de Temuana, et les Taua acceptent de ne pas s'en prendre aux missionnaires, les pères Escoffier et Orens qui renoncent à quitter l'île.
Yeah.
Grâce à Max Radiguet, présent lors de la mort et des cérémonies funèbres de Niehitu, nous apprenons de nouveaux détails importants sur cette époque. Ceux qu'il donne des cérémonies de deuil étant conformes à ce que nous avons déjà vu, lu ou entendu, nous les laisserons de côté pour nous tourner vers des informations nouvelles. De Niehitu lui-même, il nous dit qu'il était gros, court et âgé de 50 ans environ. Il ajoute qu'il était tellement bedonnant que son surnom était Kopunui, gros ventre. Il avait aussi les jambes très arquées. Seul son visage était tatoué. Il ajoute qu'avant sa mort, lui et son neveu Temoana étaient de grands amateurs d'alcool. Ensuite, Radiguet nous explique que le corps de Niehitu a été transporté en baleinière de nuit depuis le bas de la vallée Hikohei jusqu'en bas de la vallée Pakiyu, à un endroit où s'élevait alors l'immense banyan dont nous avons déjà parlé et qui, d'après la gravure réalisée en 1838 par le Breton, se trouvait non pas côté Pakiyu mais côté
Maouia.
Il était d'ailleurs plus logique pour un banyan de se trouver plus près du Tohua
Maouia.
N'oublions pas que Niehitu était d'origine Hapa'a. Il était donc logique que Niehitu résida dans la vallée Hikohei avec Pakoko, lui aussi Hapa'a. En descendant ainsi près du banyan, les cérémonies funéraires pouvaient se dérouler au plus près de Chetemoana, tout en restant sur les terres à majorité Hapa'a. Outre le récit écrit de la cérémonie en cours, Radiguet nous a laissé une illustration de cet épisode funéraire sur laquelle on peut voir le corps de Niehitu gisant devant une case dans sa pirogue funéraire, veillée par une femme agitant un éventail. Comme cette case se dresse sur un paipai et qu'à cet endroit-là, il n'y avait que le paipai Ha'e'ei, sur lequel en 1804 résidait Kiato Nui quand il descendait au bord de mer à Taiohae, il est possible que cette aquarelle de Radiguet représente aussi, en 1844, le paipai Ha'e'ei, situé de nos jours au-dessus de la boulangerie Joseph de Taiohae. Radiguet continue. Nous entrons ensuite dans la case où le corps est exposé. On dépose alors sur Niehitu l'uniforme rouge que Temoana avait reçu de l'amiral du Petit Ouar. Et tout en se lamentant d'une voix non retenue, le jeune chef vient frotter son nez contre celui de son oncle défunt en signe de dernier adieu. Il est suivi par de nombreux autres hommes qui font de même. C'est là une tradition dont on nous a reporté que peu d'exemples. Ensuite, Temoana va s'asseoir près de son épouse
Tahia
Oko et de son autre oncle Hopewehine, qui avait été son troisième régent. Radiguet nous dit que le vieux chef est très malade et que les gens pensent qu'il va bientôt mourir. En fait, il restera en vie et reprendra plus tard du service en qualité de régent, allant même jusqu'à s'opposer à Temoana face aux Français. Il vivra si longtemps que son nom figure comme témoin sur l'acte de sépulture de Temoana le 12 septembre 1863.
Et il mourra en 1877.
Pakoko et le Tauaveketu sont aussi présents. C'est alors que nous assistons à une scène de ménage entre les deux époux dont Radiguet n'a pas besoin de comprendre les paroles pour nous conter ce qui se passe. Voulant prendre l'air,
Tahia Oko
se lève pour sortir, mais Temoana lui demande de rester. Sans se préoccuper des requêtes de son mari, elle continue son chemin. Temoana la rappelle vertement à l'ordre.
Et Tahia Oko
lui répond si vertement que les « Hou » et les « Ha » et les « Ho » d'étonnement fusent de l'assistance. Radiguet raconte alors que Temoana va se rasseoir et allume une pipe, peut-être pour se calmer les nerfs. Chers amis, la première version de cette émission avait été enregistrée en 2016 et je l'ai modifiée en 2017. Aujourd'hui,
en janvier 2023,
suite à mes recherches constantes sur le passé de la Terre des Hommes, je dois y apporter de nouvelles modifications imposées par les informations récentes que j'ai découvertes à propos de Temoana. Le 19 septembre 1833, le pasteur Alexander nous raconte le mariage de Temoana avec Apekua, fille aînée de Paetini. Ils ont tous les deux 12 ans environ et sont tous les deux arrière-petits-enfants de Kiato Nui par deux lignées différentes. On sait qu'en mars 1834, soit 6 mois après son mariage, Temoana s'embarque sur un navire anglais et ne revient à Nukuhiva qu'en 1839, 5 années plus tard. Parti enfant, il revient homme et veut retrouver sa place de chef Hakaiki ainsi que son épouse. À partir de 1842 et l'annexion des Marquises par la France, quelques jeunes Français s'installent à Taiohae et y écrivent leur journal.
Des journalistes passent par les marquises et y rédigent des articles. Entre 1842 et 1858, Max Radiguet, secrétaire de Du Petit Thouars, nous laisse aussi une quantité inestimable de détails dans son livre journal. L'accès aux archives de l'évêché de Taïohae et à celles de l'état civil me permettent aujourd'hui de vous faire part de mes découvertes. Par George Winter, dont j'ai déjà parlé, nous apprenons que Temuana avait eu avec Apekua une fille nommée Teiki Autini, âgée d'environ 5 ans en 1845 et qui était aveugle. Dans ses écrits, le journaliste Edmond de Ginoux de Lacoche nous raconte que l'un des Pequio, mari secondaire survivant de Paetini, est chargé de l'éducation de son petit-fils, Manutini, fils et successeur désigné de Temuana, âgé d'environ 5 ans en 1843. Sur l'acte de décès de Stanislas Moanatini le 16 décembre 1893, il est écrit qu'il était fils de Temuana et de Apekua et qu'ayant 49 ans, il était né en 1844. Cela signifie que Temuana avait eu 3 enfants avec Apekua, Manutini, Teiki Autini et Moanatini. Par George Winter, nous savons aussi qu'à son retour, Temuana avait fini par délaisser Apekua à cause d'une maladie qui la défigurait. C'est à cette époque-là qu'il s'est tourné vers
Tahiaoko,
présente à ses côtés de 1842 à 1848. Par de nombreuses sources, nous savons aussi que la relation entre Temuana et
Tahiaoko
était difficile, qu'ils se fâchaient souvent et qu'elle fuguait. En 1848, Ginoux de Lacoche écrit qu'elle a fini par se séparer définitivement de Temuana, qui est allée chercher une fille de chef de Uopo comme troisième épouse. Il n'en donne pas le nom, et nous savons qu'il n'a pas eu d'enfant ni avec cette dernière femme, ni avec
Tahiaoko.
Lorsque cette femme de Uopo est décédée vers 1849, il a épousé Vaikehu Upoko Titipu, jeune sœur de Apekua, et veuve d'un chef Hapa'a nommé avec lequel elle avait eu une fille décédée elle aussi, qui se nommait Tita Hu'u'upoko. Le 24 mai 1879 à Taïohae, en présence du résident chastanier, Vaikehu adoptera officiellement Stanislas Moanatini afin de le faire bénéficier de tout son héritage en plus de celui de Temuana. Voilà donc à ce jour l'histoire de Temuana, de ses 3 enfants et de ses 4 épouses. Quant à
Tahiaoko,
les écrits de cette période-là nous apprennent que son père était un chef des Teava'ani de Ho'oumi, probablement un frère de Temanunui Otei'i, mari officiel de Paetini.
Tahiaoko
était donc cousine au premier degré de Apekua et de Vaikehu. En attendant de nouvelles informations, c'est la théorie que je propose. Au cours de l'année 1844, le commandant Favreau est remplacé par le lieutenant de vaisseau Brunet, puis par le capitaine Cunier. Le chef de bataillon d'artillerie de marine Amalric remplacera ce dernier en fin d'année. Tout à l'heure, vous avez pu être étonné d'entendre que les cérémonies funéraires du chef Niehitu s'étaient tenues à l'endroit où, en février 1839, Monseigneur Rouchouz avait acheté un terrain pour la mission. Il faut savoir que ce terrain a été abandonné le 31 juillet 1841. En fait, en 1844, donc l'année de la mort de Niehitu et des 2 autres chefs, le père Vincent Ferrier Duboise a acheté à Patoa un grand terrain pour y établir un poste missionnaire. Une première chapelle dédiée à Notre-Dame Immaculée y fut bénite le 17 décembre 1844. Chers amis, une sorte de train-train semble s'être installé sur l'archipel. Les Français sont là, mais ils ne savent pas vraiment dans quel but. Pour nous, cette année 1844 se termine en beauté par le magnifique cadeau que nous fait René Gilotin par ses dessins, qui nous permettent de voir le Taïohae ainsi que les personnalités marquantes de l'époque, dont ce sont quasiment les seuls portraits connus et que l'on peut voir sur Internet. Mais en réalité, les Enana s'opposent profondément à l'ordre qu'on est en train de leur imposer. L'année qui suit, 1845, verra la rébellion se faire jour, stoppée net, par l'exécution de Pakooko, qui en était le principal instigateur. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Landon Jones pour sa chanson Te Kuanui o Nukuhiva, la fine fleur de Nukuhiva qui célèbre la beauté de la plus belle fille de l'île.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.